Alors, on va commencer, Bezrat Hashem, notre deuxième cours sur le Père et Kravbet, le chapitre 22. Le thème dans le chapitre 22, ce qu'on a développé longuement la semaine dernière, on a développé la notion que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, et que, bien que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est clair, c'est évident, le bien comme le mal, seulement on a expliqué que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il y a le canal direct, et il y a le canal indirect. Ça, c'est la conclusion de la semaine dernière. Le canal direct, bonsoir, le canal direct, c'est la Kedusha. C'est ce que Akadosh Baruch Hu est intéressé de créer. Le canal indirect, c'est ce que Akadosh Baruch Hu n'est pas intéressé de créer, mais qui vont être créés par la force des choses. Et on avait donné plusieurs exemples. Je recite juste un seul exemple. On avait donné l'exemple du roi qui organise un festin pour ses ministres. Donc le festin, il est organisé pour qui? Pour ses ministres. Et qui c'est qui va prendre les restes de ce festin?
Les chiens. Expliqué.
Les serviteurs, les chiens, les fourmis, les rats. Donc finalement, le roi, il a nourri les chiens. Le roi, il a nourri les fourmis. Mais en vérité, est-ce que le roi, il a fait le festin pour nourrir les fourmis? Non. Donc le fait qu'il a nourri les chiens, les fourmis, etc., c'était une relation qui a été indirecte. Alors de la même manière, on a expliqué que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il y a le canal direct et le canal indirect. Il y a le canal des tzadikim, il y a le canal des rechaim. Les deux vivent. Le tzadik, il vit, le racha, il vit. Seulement, la différence, c'est que le tzadik, Akadosh Baruch Hu, il lui donne directement, bepanim, en pleine face. Alors que le racha, Akadosh Baruch Hu lui donne, rappelez-vous,
par derrière.
Par derrière. Ça veut dire quoi, par derrière? Ça veut dire qu'il n'est pas intéressé, il ne regarde même pas. Alors, il va lui donner, mais il ne le regarde même pas. D'accord? Maintenant, on s'est arrêté la semaine dernière sur une question très importante. C'est le thème du cours d'aujourd'hui. Même ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, c'est un nouveau thème. La question qu'on a posée la semaine dernière, c'était pourquoi c'était important pour Akadosh Baruch Hu de créer le mal. Pourquoi il a besoin de créer le mal? Même si tu vas me dire, comme on avait dit la semaine dernière, que Akadosh Baruch Hu voulait qu'il existe la notion de l'effort, il n'a pas besoin de créer le mal pour ça. Il aurait pu créer le bien, ce qui est bien et ce qui est mieux. Est-ce qu'il fallait créer le mal? Puisque c'est Dieu qui crée le mal. À chaque instant, Dieu crée le mal. D'accord? Alors, on a expliqué que c'est un dérivé, que c'est indirect, c'est par derrière, mais c'est lui qui le crée quand même. Est-ce que Dieu était obligé de créer le mal? D'accord? Oui, mais même sans le mal, on aurait pu avoir ça.
Alors, comment on peut
On peut être bon et on peut être mieux. Attendez, déjà les questions, doucement. On n'a pas commencé. Non, attendez, doucement. Non, attendez, doucement, on n'a pas commencé. Je fais un résumé, non. D'abord, on commence. Alors.
Ça dit quoi?
Elle n'a pas commencé. Alors, d'abord on va commencer. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui maintenant, c'est pourquoi c'était nécessaire de créer le mal. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il avait besoin qu'on crée le mal. Alors on va lire dans les mots, c'est quelques mots très concentrés qu'on va essayer de décortiquer et après on fera les questions. Donc on est en plein milieu du chapitre 22 et on est... Alors...
Je t'ai arrêté vers la fin de la page 54, je m'en rappelle plus.
Alors, 275, je crois qu'on était. On s'était arrêté à Rak le'anish d'Arishaim. Voilà. Alors, oui, donc on est ici à la page 276 et au milieu de la page. Donc la question qu'on se pose, en sous-entendu, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le mal? Alors regardez la réponse qu'il va donner, qu'il va commencer à expliquer. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé le mal? Parce que tout ce que Dieu a créé dans le monde, il y a un but. Ça, il faut partir de cette base. On ne peut pas dire qu'il y a des ratés. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire, avant de démarrer ce cours d'aujourd'hui, il faut comprendre que ce n'est pas comme nous aujourd'hui qu'on dit qu'il y a des ratés. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un se lance dans une affaire, même s'il va gagner beaucoup d'argent, mais il va aussi perdre de l'argent. D'accord? C'est comme ça. C'est-à-dire, forcément, il y aura des fausses dépenses, il y aura des faux frais. Maintenant, quand on fait le calcul, on se dit que quand l'affaire, elle marche, ça veut dire quoi? Que même s'il y a eu des faux frais, mais c'est quand même rentable. Ça veut dire, je me dis, j'ai perdu un peu, mais j'ai gagné beaucoup, donc dans l'ensemble, j'ai gagné beaucoup. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Akadosh Baruch Hu, ça marche pas comme ça. C'est pas qu'il a dit, bon, j'ai gagné 80%, j'ai perdu 20%, j'ai gagné 80%. 100% rentable. Chez Akadosh Baruch Hu, il y a 100% de rentabilité. Donc même le mal, il doit avoir une rentabilité. Quelle est la rentabilité du mal? Pourquoi Dieu a créé le mal? Il n'a pas été créé par hasard. Et c'est sur cette base qu'on va partir. Pourquoi Dieu a créé le mal? Rak seulement. Donc en quoi le fait de créer le mal sert le but d'Akadosh Baruch Hu, qui est de faire une demeure ici-bas? En quoi, pourquoi Dieu avait besoin de créer le mal? Rak seulement. Léa Nish et Tareshaim. c'est pour. Mais non, c'est Dieu qui crée le mal. C'est sûr, ça. Dieu crée le mal. Alors, c'est vrai que c'est indirect. Ça, c'est vrai. Ah, voilà. Mais il le crée quand même. Et forcément, s'il le laisse se faire, c'est qu'il a un intérêt. C'est sûr, ça. Il y a une rentabilité, ça, c'est sûr. Pourquoi il l'a créé? Rak seulement. Léa anish et arechaim. Pour punir les rechaim. Ça veut dire quoi? Attention, je vais expliquer ce que ça veut dire. C'est quoi punir les rechaim? C'est-à-dire, Dieu dit, tiens, je vais leur créer, je vais leur mettre des pots de banane, ils vont glisser, et après, hop, je vais les glisser, je vais leur taper dessus. Non, c'est pas ça ce que ça veut dire. On va expliquer. Léa anish et arechaim. Pour punir les rechaim. Veliten tsachartov la tzadikim. Et pour donner un grand salaire, un bon salaire pour les tzadikim. Alors, ça veut dire quoi? Quand on dit les rechaim, rechaim, c'est pas forcément les gens qui se comportent mal. Quand on dit punir les rechaim, ça veut dire quoi? Ça veut dire punir le mal. Chaque fois qu'il y a un mal qui existe dans le monde et que moi je casse le mal, chaque fois que je casse le mal, chaque fois que je me retiens de dire une bêtise à quelqu'un, chaque fois que je me retiens de regarder quelque chose de pas bien, chaque fois que je me retiens de raconter une bêtise, chaque fois que je me retiens, eh ben Dieu va me récompenser pour ça. Le chidouche qu'il veut nous montrer ici, c'est que Dieu, après 120 ans, et quand Mashiach va venir, il va pas seulement nous récompenser pour les bonnes choses qu'on a fait. Il va nous récompenser aussi pour les mauvaises choses qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. Et ça, c'est un chidouche. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, on réfléchit pas comme ça. Dans le monde d'aujourd'hui, d'accord, quand une personne fait une bêtise, la police l'attrape. D'accord? Maintenant, la police, elle va pas le juger pour lui dire, mais attendez, je me suis retenu 50 fois. La police dit, nous, on connaît pas, nous. Nous, on voit ta faute maintenant, on te punit maintenant. Demain, tu te comportes bien, bah, tant mieux pour toi. On sait pas ce que ça veut dire que on va te récompenser pour les 50 fois que tu t'es retenu. Ça n'existe pas. Nous, les hommes, on sait pas réfléchir comme ça. Mais à Kadosh Baruch Hu, il réfléchit comme ça. À Kadosh Baruch Hu, il va nous juger et nous récompenser pour toutes les fois où on s'est retenu et pour toutes les fois où on a fait la mitzvah. Puisque c'est écrit clairement dans la Gemara que chaque fois qu'on se retient de faire une avera alors qu'on avait envie de la faire et qu'on était à deux doigts de la faire, c'est comptabilisé comme une mitzvah. Il y a des gens qui en ont fait beaucoup des mitzvahs. Hein. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le savoir, c'est entre vous et Dieu. Parce que bien sûr, tu me dis, oui, mais maintenant j'aurais pu faire 5000 avérotes. Non, je parle d'une avéra qui était dispo devant toi, qui était accessible, tu aurais pu la faire et tu ne l'as pas faite. D'accord? Bon, si c'est ton Yitzhara, oui. D'accord? On parle d'une personne, c'est son Yitzhara. D'accord? Il a la tentation qui est devant lui, il peut la faire sans problème, il a toutes les conditions qui sont là, il ne la fait pas. Et bien ça, ça lui sera comptabilisé comme une mitzvah. Seulement, plus la avéra était dure, et plus ça me sera considéré comme une grande mitzvah. Donc vous comprenez que si Dieu n'avait pas créé le mal,
c'est proportionnel.
Alors automatiquement, bon, une personne, Dieu, s'il n'y avait pas de mal dans le monde, il y avait juste des petits trucs. Bon, automatiquement, le salaire aurait été des petits trucs. À Kadosh Baruch Hu, d'après cette première explication, on en aura d'autres. D'après cette première explication, il a fait exprès de créer le mal, parce qu'en vérité, en créant le mal, ça donne un salaire chaque fois qu'on se retient. Chaque fois qu'on se retient, ça nous booste et ça nous donne l'obligation de faire ses mitzvot. Ça, c'est une première explication. Dans la suite, il va expliquer quelque chose de beaucoup plus fort. Il va dire que lorsque Akadosh Baruch Hu, il a créé le mal, il va nous obliger à nous dépasser. J'explique ce que je veux dire.
Il y a deux niveaux, là.
Imaginez un monde dans lequel tout était facile. Bon, il n'y a pas vraiment de avérot, pas vraiment de complications. Bon, tu peux être bon, tu peux être mieux, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de complications. Dans un monde comme ça, est-ce qu'une personne va donner le meilleur de lui-même? Est-ce qu'il se connaît? Non, pas du tout. Il n'a pas besoin, parce que ça tourne.
Tu peux être bon, tu peux être mieux. Donc, il va donner une...
Oui, mais il n'y a rien qui le pousse, qui l'oblige à donner le meilleur de soi-même. Parce que ça marche.
C'est le minimum syndical.
Tu comprends? C'est comme tu as une affaire, elle tourne déjà. Tu peux toujours mieux la faire tourner, mais elle tourne. Par contre, quand la personne, l'affaire est en train de se casser la figure, là, on va voir que la personne, le PDG, s'il veut s'en sortir, il va avoir des sources d'ingéniosité extraordinaires pour sortir des idées que jamais il aurait pu penser. Ça veut dire... C'est dans le principe du monde, ça c'est un principe dans le monde, qu'on voit que lorsqu'une personne est devant le gouffre, c'est là qu'il va trouver des idées extraordinaires. Et ben c'est la même chose. Une des raisons pour lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le mal, c'est pour nous récompenser, pour nous comptabiliser ça comme une mitzvah, quand on va se retenir. Et à part ça, pour nous forcer et nous pousser à nous dépasser et à trouver en nous des forces que nous-mêmes on ne savait pas qu'on avait. D'accord? Ça c'est déjà un chidouche. Seulement, c'est un jeu dangereux ce que Dieu y fait. Bah oui, parce que quand tu pousses quelqu'un à la faute et tu dis, il peut se retenir, mais t'es pas sûr qu'il va se retenir. Hein, monsieur Benita, est-ce qu'il va se retenir ou va pas se retenir?
Ça dépend.
C'est très compliqué.
Ça dépend le degré dans lequel il se trouve dans la chassidoute et dans la...
Alors, les lois. Je vais vous présenter le cas.
Ça dépend de la
Dieu, il lui présente une avéra qui est vraiment accessible.
Caractère de la faute.
Mais il a aussi une grande neshama. Ça veut dire grande neshama, grande faute. Grande tentation. bras de fer. Qui va gagner? Alors, il peut gagner, mais est-ce qu'il va gagner? On ne sait pas. C'est très compliqué. Mais par contre, qu'est-ce qu'il te dit à Kadosh Baruch Hu? Lorsqu'on t'a mis de la résistance, quand tu vas réussir à gagner, automatiquement, tu vas déployer des forces que tu as, des forces que tu as en toi, que toi-même, tu ne savais pas que tu avais. Et ça, c'est grâce à quoi? Grâce au fait qu'on t'a mis un challenge, grâce au fait qu'on t'a poussé à faire la vera, qu'on t'a poussé à faire le mal. Veliten sachar tov la tzadikim, deikafian la sitra achara, pour donner un salaire aux tzadikim qui vont réussir à se battre les sitra achara contre les forces du mal. Donc ça veut dire en vérité, d'après ce commentaire, quelque part, on est tous un peu les tzadikim. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire, bien sûr qu'on fait des averot, mais si on va comptabiliser chaque fois qu'on voulait faire une avera et chaque fois qu'on s'est retenu, et on va dire qu'après 120 ans, à Kadosh Baruch Hu va nous comptabiliser ça comme des mitzvot, finalement, on en a fait beaucoup des mitzvot.
Excuse-moi, rien que de couper. Quand il dit rachat, ça dit que là, ici, dans ce contexte, c'est celui qui réussit, celui qui ne réussit pas, c'est ça, à peu près?
Le rachat, c'est celui qui tombe, d'accord? Le tzadik, c'est celui qui a réussi à ne pas tomber.
Siman bracha. Siman bracha.
Merci. Une serviette, par contre.
Ouais, il est assez cher. Chaim.
Je veux juste me prendre une serviette, s'il te plaît, dans le. Ah, il va chercher, d'accord. Alors, vous trouvez? Je vais prendre du oisis, s'il te plaît, là-bas. Si vous pouvez. T'as trouvé, Avner?
Non, il n'y a pas trouvé. Attends.
Alors, dans les toilettes, il y a une serviette, là. Il y a une serviette.
Il n'y a pas de papier de toilette, tiens.
Non, il y a une serviette normale dans les toilettes, là.
Non, non, merci.
Attends, il doit. Ah, c'est bien, merci. Merci. Ok.
Tu vas où le lit? Fais-la.
Merci.
Voilà. Et sous le livre aussi.
Allez, les chaim. Bon, on va tous dire les chaim. C'est un signe. Si c'est tombé, ça veut dire que. Faut qu'on
dire les chaim maintenant. Non, attends, je vais la remettre en place. Hein.
Le quoi?
La serviette. Faut pas la laisser.
Je vais la mettre après, attendez.
Non, c'est pas
bien. On va encore salir.
Mini.
Parce que je pense que j'ai échappé à un vrai danger. Il va le raconter à la fin du cours, si veut. Alors, Vezé Nikra Prinat Achoraim Deratson Aelion Baruchu. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un but indirect de la création, donc de la création du mal. Ça veut dire que Dieu, là je suis toujours à la même page là. Là je suis en, voilà, la page 276. Vezé Nikra, Prinat Achoraim, Deratson Elion Baruchu. Et c'est ça ce qu'on appelle, tenez parce que là je vois la machine. C'est ce qu'on appelle, il y a des livres encore pour ceux qui veulent. Qui veut un livre?
Merci.
Tu vois, Nickel? Il y en a. Vezé Nikra, Prinat Achoraim, Deratson Elion Baruchu. Et c'est ça ce qu'on appelle. Prinat Achoraim, ça veut dire donc la relation indirecte de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça, je voudrais m'arrêter un peu dessus. Là, on va faire pas mal à l'oral aujourd'hui parce qu'il y a des notions très importantes. Dans Pirkei Avot, on a commencé Pirkei Avot cette semaine, chapitre 5. La Mishnah de Pirkei Avot pose la question. Elle dit, pourquoi le monde a été créé par 10 paroles? Pourquoi pas par une parole? Ba'asara mamarot nivra haolam. Pourquoi il a été créé par 10 paroles? Qu'est-ce que répond la Mishnah? Elle dit, pour punir les Réchaïm qui détruisent le monde qui a été créé par 10 paroles, et pour récompenser les Tzadikim qui maintiennent le monde qui a été créé par 10 paroles. Alors en Chassidut, on pose une question très simple. On dit, pourquoi tu me parles des Réchaïm avant de parler des Tzadikim?
C'est les mêmes paroles.
D'abord, tu aurais dû me dire que Dieu il veut récompenser les Tzadikim, et après, on va s'occuper de punir les Réchaïm. Alors en Chassidut, on explique comme ça. On dit, en vérité, c'est qui les Réchaïm? C'est qui les Tzadikim? C'est nous.
C'est les mêmes.
Chaque fois que je repousse une avéra, d'accord? Ça veut dire que je suis en train de punir les réchaïm. Je suis en train d'enlever le mal qui est en moi. Ensuite, une fois que j'ai nettoyé, là, je vais faire une mitzvah. Maintenant, on explique comme ça en chassidout. Lorsque tu as un appartement, tu prends un appartement qui est tout sale, et tu as des très beaux meubles à mettre, tu vas les mettre tout de suite, les beaux meubles? La maison, elle est sale. Non. D'abord, tu nettoies. Une fois que tu as nettoyé, tu as enlevé le mal, après, tu vas mettre les beaux meubles. Alors, on dit c'est la même chose. C'est la même chose. Dans la vie d'un juif, chaque fois qu'on fait le ménage, chaque fois qu'on arrive à repousser le mal, chaque fois qu'on arrive à se retenir à faire une avéra, on est en train en vérité de préparer le chemin pour une mitzvah. On est en train de se purifier. Et c'est comptabilisé comme une mitzvah. Donc le nombre de mitzvahs qu'on a fait, c'est extraordinaire, c'est énorme. Si on comptabilise tout ça, chaque fois qu'on s'est retenu comme une mitzvah, c'est énorme. C'est vraiment extraordinaire. C'est pour ça qu'on les appelle des mitzvot. Et c'est ce qu'il dit ici. Voilà pourquoi dans le texte, on a fait passer d'abord les rechaïm avant les tzadikim. Pour te dire, sache que chaque fois que tu t'es retenu de faire une avera, c'est déjà une mitzvah. Si en plus que tu t'es retenu, t'as fait une mitzvah, là t'es au top. Là t'as fait deux mitzvot. T'as fait d'une pierre deux coups. D'abord tu t'es retenu de faire la avera, et en plus t'as fait la mitzvah. Donc vous voyez que même le mal, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le mal, le fait de se retenir de ne pas faire du mal, c'est déjà une mitzvah, c'est déjà quelque chose de bien. Donc on a ici un but parallèle. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le mal? Pour que ça nous soit comptabilisé comme des mitzvot. Maintenant, on va lire quelques lignes, après on va s'arrêter. Vehine ratson elyon du prinat panim hu mekor achayim amechaye et kol haolamot. Alors, il dit maintenant, bonsoir. Il dit vehine ratson elyon du prinat panim hu mekor achayim amechaye et kol haolamot. Donc, la volonté de Dieu, qui est biprinat panim, ça veut dire lorsque Dieu nous donne ce qu'il faut, biprinat panim, de pleine face. Rappelez-vous, la semaine dernière, il y avait deux canaux. Il y avait le canal direct, le canal indirect. Il dit, ça c'est ce qui fait vivre le monde. Où les fiches et nos chores, et je vais terminer la ligne, après j'explique, hein. Où les fiches et nos chores éclairent la citra achara. וגם בחינת החורים של הרצון העליון אינו מלובש בתוך הממש אלא מקיף עליה מלמעלה. לכן, עם מקום המיטה והטומאה, השם ישמרנו. D'accord. Maintenant, il explique quelque chose de très important. Il dit, on a un principe. On a un principe très simple. On dit que la Kedusha peut s'attraper sur quelque chose. Elle peut résider dans un endroit. La Touma, c'est quoi la Touma? La Touma, c'est quand il y a un vide. L'impureté, c'est quand il y a un vide. Exemple. La Kedusha, c'est la vie. La Touma, c'est la mort. C'est quoi la mort? La mort, c'est l'absence de vie. Ok? Où il veut nous amener ici? Ce qu'il veut expliquer ici, c'est que par rapport à Kadosh Baruch Hu, le bien, c'est le makom, à Kedusha, c'est le makom de la vie. La vie est égale le bien, la vie est égale la Kedusha. La mort est égale la Touma, la mort est égale le vide. Donc, ce qu'il veut expliquer ici, c'est très important. Il veut dire, des fois, quand on voit le mal, on a l'impression que le mal est très fort. Et on a vu ça dans l'histoire, que des fois on a l'impression que le mal est très très fort. Parce que le mal peut te donner l'impression qu'il est très 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 puissant. Mais en vérité, il faut savoir que c'est une bulle. Le mal n'a pas de consistance, il tient pas. Et même si tu as l'impression qu'il est très très fort, qu'il est très très gros, qu'il est très bon, mais le mal, par définition, ne peut pas s'attraper à quelque chose. Pourquoi il peut pas s'attraper? Parce que Dieu, c'est une relation indirecte avec le mal qu'il a. Le mal, il s'est créé par lui-même, si vous voulez. C'est une relation indirecte. Donc comme c'est une relation indirecte, ce qu'il explique ici, le mal ne peut pas tenir dans le temps. Et même s'il te paraît très fort, dans le temps, c'est impossible, il ne peut pas tenir. Donc pourquoi il nous raconte tout ça? Il nous prépare à la suite, dans laquelle il va nous expliquer que lorsque le Yetzer Hara, des fois, nous attaque et qu'on a l'impression que la tentation est très très forte, on te dit, ne crois pas qu'elle est si forte que ça. Dieu, il a donné une capacité au Yetzer Hara, c'est qu'il peut nous faire des gros coups de bluff. Il peut te faire croire que c'est fini, t'es déjà tombé, t'es déjà mort. C'est une force qu'il a, le Yetzer Hara. Il a une force qui peut te faire un coup de bluff qu'il est très fort. Mais en vérité, il est zéro. En vérité, il vaut rien. En vérité, tu lui mets une aiguille, c'est fini, il est hop, il se dégonfle, c'est fini, il respire.
Donc c'est nous qui lui donnons de l'importance.
Exactement. Voilà, t'as tout compris? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, c'est là où vous nous amenez. Qui c'est qui donne de l'importance au mal?
C'est nous.
C'est nous. D'accord? C'est écrit que lorsque ma chère va venir, je termine le raisonnement. Ouais. C'est écrit que lorsque ma chère va venir, Ve'ed ruach hatuma avir min haaretz. Dieu, il dit, j'enlèverai l'esprit d'impureté de la terre. Et là-bas, Rashi, il dit comment Dieu va enlever l'esprit d'impureté de la terre? Il dit très simple. Il dit, lorsque les hommes arrêteront de donner de l'importance au mal, le mal s'évaporera par lui-même. Parce que le mal ne peut avoir une existence seulement si on lui donne une existence. Seulement si on le laisse s'attraper à quelque chose. Quand tu ne le laisses pas s'attraper, il ne tient pas la route. Donc vous imaginez ce qu'il est en train de dire ici? D'abord, il te dit, chaque fois que je me retiens de faire une avera, c'est une mitzvah. D'accord? Donc déjà, c'est un sroute, c'est un mérite. En plus, il te dit, tu sais, la avera, elle a l'air tellement dure, tellement costaud, tellement compliqué, tu crois que tu vas jamais réussir. En vérité, tout ça, c'est un ballon. Pourquoi c'est un ballon? Parce que c'est pas vrai. Ce qui est vrai, ça tient dans le temps. Ce qui n'est pas vrai ne tient pas dans le temps. D'accord? Donc, il explique ici, il veut bien expliquer la différence entre ce qui est la gdusha, ce qui est la tum'a. Ce qui est la vie, ce qui est la mort. D'accord? Donc c'est pour ça que quand on parle de la vie et de la mort, c'est quoi la vraie vie? La vie, c'est pas quand je vis dans le corps. Vous savez que les Neshamas, quand elles partent d'ici, quand on va dans un cimetière, comment on appelle un cimetière en hébreu? Bet Hachaim. Pourquoi on appelle la maison des vivants? Ils sont morts. Pourquoi on appelle la maison des vivants? C'est pour faire beau, on ne ment pas, il ne faut pas mentir. Ils sont morts. Parce qu'en vérité, c'est quoi la vraie vie? La vraie vie, c'est pas le corps. La vraie vie, c'est la Neshama. Et la Neshama, elle, elle ne peut pas mourir. Le corps, il peut mourir. Mais la Neshama, elle ne peut pas mourir. La Neshama, elle restera tout le temps en vie. Et c'est très important à comprendre ça. Que tout ce qui est la Kedusha ne peut jamais mourir. Alors c'est vrai que des fois, tu as l'impression qu'il est faible, mais il ne meurt pas. Alors que ce qui est la Touma, il peut avoir là des fois être très fort, mais il finit par mourir. Donc c'est important à bien comprendre ce parallèle pour comprendre que comme le mal n'a pas été créé directement par Akadosh Baruch Hu et qu'il n'y a pas une volonté directe d'Akadosh Baruch Hu de s'occuper de lui, donc il se crée par la force des choses, mais il repartira aussi vite qu'il est venu. Donc il ne faut pas être angoissé de la présence du mal. Nous, on doit être clair dans notre tête que la Kedusha restera toujours, le Ham Israël restera toujours, on ne doit pas avoir peur des Rechaim, pas avoir peur de qui que ce soit. Alors, il y avait des questions.
La
Neshama retourne à sa source.
Oh,
bah oui. Chez elle meurt pas, une Neshama peut pas mourir, c'est pas possible. Même lorsqu'une personne fait toute la vérité au monde, alors même un rachat, c'est une Neshama peut jamais mourir, c'est indestructible. Ce qui peut arriver, c'est que Dieu la récupère. Dieu il dit, bon, on va le tuer, d'accord, donc sa Neshama remonte en haut. C'est tout ce qui peut se passer, mais la Neshama est indestructible. Une Neshama peut jamais être détruite. Temporairement, Dieu peut l'éloigner, Dieu peut la repousser comme Rav Karet, etc. Mais elle finit, une Neshama est indestructible. C'est impossible. Elle peut pas se détruire. Alors que ça, c'est parce que la Neshama, c'est la Kedusha. La Kedusha, c'est le Emet. Le Emet, c'est la vérité. La vérité, ça change pas. Ça restera toujours.
Mais rien ne dit que cette Neshama est allée dans un autre corps.
Ça change pas. Elle peut être dans un corps, elle peut pas être dans un corps,
Elle n'est plus dans le corps de celui qui est mort, il n'est plus Beth Hachaim.
Oui, quand on dit bête, je ne vais pas voir le corps de la personne, le corps il est ensemble déjà.
Non,
pas ensemble, en neshama, poussière.
Cette neshama, c'est elle qui reste vivante.
Bien sûr.
Donc à partir du moment où elle est dans un autre corps,
de quelqu'un. Une neshama peut se départager en plein. C'est pas un problème ça, on a des particules de neshamot. La neshama reste toujours liée à l'endroit où la personne est enterrée. Tout le temps.
Oui, mais vous dites, on a dit qu'elle peut aller dans un autre corps.
Non, alors elle peut pas. Une neshama, c'est pas comme un vêtement que tu le mets ici, après tu l'enlèves et tu l'enlèves. Une neshama, elle peut s'occuper de plusieurs endroits.
C'est comme une bougie, c'est comme
la pensée. Je peux penser à 10 trucs en même temps. Et les 10, j'y pense, y a pas de problème. Ça veut dire la neshama, elle peut toucher à plusieurs choses en même temps, y a pas de problème. On est tous des particules de neshama et on est là. Y a pas de question avec ça. Alors. Oui.
Mais là, le cours, c'est produit, il a créé le mal.
Voilà.
Là, c'est la faute. Mais le vrai mal, genre le mal.
Alors, ce qu'on a expliqué, c'est que pourquoi Dieu, il a créé le mal? Il a créé le mal, comme ça, chaque fois que l'homme va se retenir de ne pas tomber dans le mal, ça lui sera comptabilisé comme une mitzvah, premièrement. Deuxièmement, il a créé le mal pour pousser l'homme et aider l'homme à se dépasser. Donc, il y a toujours un intérêt, il y a toujours une rentabilité. Dieu n'a pas créé le mal comme ça pour m'embêter. Il a créé le mal pour mon bien. Comment le mal peut être pour mon bien? On a expliqué, parce que quand je me retiens, c'est comptabilisé comme une mitzvah, ça me pousse à me dépasser, et en plus, en vérité, après coup, je me rends compte que le mal n'était pas si compliqué que ça.
Je ne vous parle pas de ce mal-là, moi, je parle du vrai mal poussé à l'extrême, genre le... Il y a le mauvais
dans ça. Mais il n'y a pas le vrai barbare, mal. Même le vrai mal, c'est le but.
C'est pas se retenir de faire une faute, il y a le mal, genre les fous, le mal.
Mais pour se retenir de faire une faute, ça veut dire qu'il faut que la faute existe, donc le concept de la faute existe. Pourquoi ce concept a été créé?
Ouais, moi je te parle des pires tueurs.
Mais c'est pareil. C'est des gens qui ont poussé à l'extrême, mais c'est des gens qui sont des pires tueurs. Par exemple, tu prends une personne qui est un meurtrier. Mais cette personne-là, il a une nature de meurtrier. Enfin, je veux dire, il s'est rendu comme ça. Chaque fois qu'il va se retenir de tuer, il fait une mitzvah. Parce que lui, il a un pistolet, il a la détente sensible. Mais c'est vrai, c'est sérieux. On n'est pas à son niveau. Ouais. Chaque fois que ce bonhomme va se retenir d'appuyer sur la gâchette, il fait une mitzvah. Tu peux comprendre? Va expliquer ça à la police. Je me suis retenu 50 fois. Il va se moquer de lui. Mais Dieu, il sait ça. Dieu veut dire, j'ai vu que tu t'es retenu 50 fois.
Pour Dieu, ça vaut le coup de créer un tueur comme ça, de le laisser en vie.
Dieu n'a pas créé un tueur, il a créé la notion du mal.
Ouais.
Après nous, les hommes, voilà.
J'ai compris.
Après, il en fait ce qu'il veut.
On n'a pas dit que Dieu, c'est pas lui qui l'avait créé.
Il a créé de manière indirecte. Indirecte.
Mais
il a quand même créé, comme on a dit, 100% de rentabilité. Il a créé le mal, c'est qu'il y a une raison. La raison, on commence à la comprendre maintenant. Alors, Kimehat Miser, Or Vechayut Chiyoneket, j'accélère un peu parce que j'expliquais pas mal à l'oral là. Kimehat Miser, Or Vechayut Chiyoneket, Mekabelet et Torah Mprinat Chayut Chibigushel et Mala, Ibi Prinat Galut Mamash Betocha. Alors c'est intéressant ce qu'il dit ici. Il dit que même si une personne est un rachat, et même dans le mal absolu, comme pour reprendre l'exemple que tu as cité, le mal absolu, même dans le mal absolu, il faut quand même un peu d'énergie, parce que sans énergie, on ne tient pas. Et s'il y a un peu d'énergie, c'est-à-dire que c'est Dieu qui envoie cette énergie. Alors il dit comme ça, il dit une notion intéressante, il dit que lorsqu'une personne devient un rachat, Dieu préserve, il prend en exil, en galoute, c'est le terme qu'il emploie ici, dans son corps, une partie de sa neshama. Exemple, Dieu il nous a créé avec une neshama. Cette neshama, c'est un potentiel d'agir, un potentiel d'action, c'est une capacité. Dieu il aurait aimé que ce potentiel d'action l'utilise pour faire du bien. Maintenant, si une personne décide de devenir rachat, eh ben, le moteur, son moteur, c'est toujours cette neshama. Maintenant, la majeure partie de la neshama, Baruch Hashem, elle n'est pas dans la Vera, mais il va réussir quand même à capter une petite partie de cette neshama, qui va prendre en exil, en captivité. C'est vraiment en captivité. Et c'est cette petite partie de la neshama qui va lui donner l'énergie pour faire les Averot. Et c'est pour ça que le Zohar, il dit par exemple, quand il y avait des grands tzadikim qui allaient voir des rechaim, on dit que les tzadikim, ils allaient faire pidyon shvuim, le rachat des prisonniers. Ou bien, il y avait des fois des tzadikim qui parlaient à des grands rechaim, il lui dit, toi, il faut que tu fasses tes shuvah pour le rachat des prisonniers. Quel prisonnier? C'est lui le prisonnier. C'est la neshama qui est prisonnière. Et quand on réfléchit en vérité, on est tous dedans. C'est-à-dire, Dieu nous a créé une neshama, on a une neshama qui est en nous, on a une énergie, on a Baruch Hashem une éducation. Et quand je fais une avera, je prends Akadosh Baruch Hu et je l'emprisonne dans mes bêtises. Je le bloque dans mes bêtises parce que l'énergie qui me fait vivre, c'est Dieu qui me l'a donnée. Donc je prends cette énergie, je l'emprisonne, je la mets en galou, je la mets en exil. Quand je fais teshuva, qu'est-ce que je fais? Exactement. Quand je fais teshuva, qu'est-ce que je fais? Je fais sortir cette énergie de l'exil dans lequel elle se trouve. Donc il y a une notion de galoute. Il y a une notion de galoute. Et ça, cette notion-là, on la retrouvera à Badrachem plus tard, dans la suite. Il va expliquer une notion très intéressante. Il dit, les gens, ils parlent beaucoup de Mashiach, Mashiach, Mashiach. C'est quoi Mashiach? D'accord? Mashiach, ça veut dire qu'on demande à Kadosh Baruch Hu de nous faire sortir d'exil. Alors, dans le chapitre 37, on y arrivera dans pas très longtemps. Il va expliquer la notion suivante. Il va expliquer que pour que Mashiach arrive dans le monde, pour que Dieu nous fasse sortir de cet exil, il faut d'abord que nous, on fasse un effort de sortir nous-mêmes de l'exil dans lequel on se trouve. C'est quoi l'exil dans lequel on se trouve? C'est très simple. Quand je prends l'énergie divine que j'ai et je fais une avéra avec, j'ai pris en captivité une énergie divine. Si j'ai réussi à faire teshuva, j'ai fait sortir cet échama de captivité. D'accord? Donc c'est la notion de pidyon shvuim, du rachat des prisonniers. Ça veut dire que forcément, s'il y a un rachat qui vit, c'est qu'il a en lui une échama, une énergie qui le fait vivre, qu'il a pris en captivité. Alors, on donne un exemple en chassidoute. On dit, c'est comme par exemple, lorsque, on amène un exemple, on dit, c'est comme par exemple, il y avait une fois un roi, qui avait un fils. Le prince. Et les ennemis du roi savent très bien que le prince, c'est la prunelle des yeux du roi. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris en captivité le fils du roi. D'accord? Et ils vont le faire parler. Ils vont lui dire, bon, tu vas nous raconter quelles sont les faiblesses de ton père, quelles sont les faiblesses de son armée. Maintenant, le prince, il connaît. Ils vont utiliser le fait qu'ils ont en eux le prince, chez eux le prince, pour combattre le roi. Ils vont utiliser le prince pour combattre le roi. Et le Zohar, il dit, c'est la même chose. C'est ce qui se passe avec nous, en vérité. À Kadosh Baruch Hu, nous sommes les fils du roi. Nous sommes les princes. Donc nous sommes les princes. On est venus ici, on est venus sur la zone de combat qui est ici bas sur terre. Normalement, on aurait dû être du côté de Dieu. Ça veut dire, on aurait dû faire les mitzvot. Quand je fais Ida Avera et quand je deviens Racha, qu'est-ce qui se passe? Je passe dans le camp ennemi. Et quand en plus j'informe le camp ennemi et je suis là en train de l'aider, faire des Averot, etc., c'est le pire des affronts pour le roi. Tu t'imagines, le roi dit, mais c'est mon fils qui est en train de se battre contre moi. Maintenant, le fils, est-ce qu'il se bat directement ou indirectement? J'en sais rien. Mais en tout cas, il a aidé l'ennemi. Ben, c'est exactement ce qui se passe quand la Neshama fait une Avera. Quand je fais une Avera, on détourne la capacité du roi, au travers donc de son fils, pour se battre contre le roi. On va prendre l'énergie de Dieu pour se battre contre Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la notion de l'Avera. Donc, c'est pour ça que dans le Zohar, on parle beaucoup de cette notion de Pidyon Shvuim, le rachat des prisonniers, chaque fois qu'on fait Teshuva. Besod Galut Ashrina. Et ça, c'est la notion de l'exil de la Shrina. Alors, je veux pas trop rentrer dedans, mais c'est expliqué que, finalement, quand on dit que lorsqu'on est parti en exil, on est en exil depuis déjà la destruction du deuxième Beth Amikdash, on est en exil parce que la Shrina est partie en exil. Pourquoi la Shrina est partie en exil? Parce que chaque fois qu'on a fait des Averot, on a pris la puissance d'Akadosh Baruch Hu et on l'a mis en exil. Et donc, à un certain moment, on a dépassé une limite qui a fait que la Shrina maintenant est en exil. Shrinta, Begaluta, la Shrina est en exil. Et
comment a-t-il pas accepté ça?
Il a pas le choix. C'est lui qui a fait ce système. Chaque fois qu'on prend une énergie et qu'on fait de la vérote avec, on prend cette énergie-là et on la met en exil.
C'est-à-dire qu'on réduit la puissance d'Hachem, l'énergie d'Hachem?
Non, on ne peut pas réduire Akadosh Baruch Hu. On détourne, oui, détourne, oui.
C'est ça.
Très clairement, on détourne. On détourne l'énergie d'Akadosh Baruch Hu. Et vous savez, dans Igaret HaTshuva, je l'ai mentionné rapidement la semaine dernière, je voudrais m'arrêter dessus. Dans Igaret HaTshuva, il explique, il dit que qui sont les pourvoyeurs principaux du mal? Vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière? C'est qui les pourvoyeurs principaux du mal? Qui c'est qui donne l'énergie au mal? Il n'y a que le bien qui peut donner l'énergie au mal. Chaque fois qu'un rachat il fait une avéra, il prend de l'énergie du bien qu'il a en lui, de sa neshama, et il nourrit le mal. Maintenant, il faut même un petit peu, il peut nourrir. Il explique dans Igaret HaTshuva, il dit c'est la raison pour laquelle, comme les Rechaïm sont les pourvoyeurs principaux du mal, c'est la raison pour laquelle les forces du mal vont bichonner les Rechaïm. Quand il y a un rachat, il lui donne tout ce qu'il veut. Il lui donne la Ferrari, il donne tout ce qu'il veut, pas de problème. Pourquoi? Parce qu'ils savent que celui-là, c'est son fournisseur principal. C'est un gros client, celui-là. C'est pas un client, c'est un fournisseur. Alors le fournisseur, il faut s'occuper de lui. Il faut lui donner ce qu'il faut, comme ça, il continue à nous fournir. Hein?
C'est le bakchich.
C'est le bakchich. Et c'est ce qui explique ici. Et donc, maintenant, si vous voulez, ce qu'on comprend d'ici, on a une image qui est beaucoup plus générale de l'histoire de l'exil. Et ça, je vous en m'arrête un petit peu dessus. C'est pas simplement qu'on a fauté, Dieu nous a punis, et après il va dire, bon, la punition est terminée. Non, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est que on a fauté, et à cause du fait qu'on a fauté, on a pris en captivité des forces de la Kedusha qui sont maintenant prises en captivité par les forces du mal, à tel point que nous maintenant le contrôle même plus, et que le mal est très fort dans ce monde. Et chaque fois qu'on va combattre le mal, en combattant les gens qui sont pas bien, en combattant les Averot, chaque fois on va enlever un petit peu, jusqu'à ce qu'à la fin, Dieu dira c'est bon, maintenant on peut ramener ma chère, on peut ramener comme c'était avant. Donc c'est en général, c'est le monde entier qui est en exil. C'est la Shrina qui est en exil, c'est l'énergie divine, l'énergie d'Akadosh Baruch qui est en exil.
Donc là, tu donnes les caractéristiques de la galoute, en fait.
C'est ça, les caractéristiques de la galoute, bien sûr.
Et c'est les caractéristiques qui sont universelles pour n'importe quel type de
partout.
Galoute.
Partout, bien sûr. C'est toujours le principe de galoute à Shrina. Regardez, par exemple, qui c'est qui a donné de l'importance à Ahmadinejad? Il y a 30 ans, ce bonhomme, il valait quoi?
Non, rien.
Il valait rien. Qui c'est qui lui a donné de l'importance?
Ben, la position qu'il avait au sein du gouvernement.
Ah, attends. Qui lui a donné l'importance? Pourquoi il est important maintenant? C'est nous qui l'avons donné l'importance. Enfin, nous. Le monde qui lui a donné l'importance. Le monde lui a donné l'importance. Comme le monde a commencé à le calculer, on a commencé à faire attention. Alors, on le calculait positivement, négativement, en tout cas, on le calculait.
On ne pouvait pas le calculer.
Oui, d'accord, j'ai compris. Mais à force de le calculer, on lui a donné de l'importance. Si on ne le calculait pas, il n'aurait pas pu avoir de l'importance. Le mal ne peut s'attraper que si le bien lui donne l'importance. Vous me suivez?
Non.
Le mal ne peut exister seulement si on lui donne un terrain sur lequel il va tenir.
Mais alors, comment il peut y avoir...
Il ne donne pas d'importance, il le valide en fait de plus en plus.
Si.
Comment il peut y avoir la kedusha dans le mal?
Parce que vous avez dit tout à l'heure,
quand je fais le mal, c'est un petit peu de kedusha que j'enlève.
Alors, très bien. Parce que la seule vraie énergie qui existe dans le monde, c'est la kedusha.
C'est au fond de toi.
Mais dans le mal,
attendez, même le mal, s'il existe, c'est qu'il y a de l'énergie. D'où vient cette énergie? Cette énergie, c'est une énergie de la Kedusha qui a été détournée, parce qu'il n'y a que l'énergie de la Kedusha dans le monde. Seulement, il y a l'énergie directe qui est l'énergie de la Kedusha, il y a l'énergie détournée. Comment elle a été détournée? Elle a été détournée parce qu'un jour, il y a eu un rachat qui a fait une avéra. Un juif. Et quand ce rachat a fait une avéra, il a pris de l'énergie, il a détourné. Plus le bonhomme qui a fait l'avéra était important, plus l'énergie qu'il va déployer, qui va détourner, va être importante. Et après, pour récupérer cette énergie, c'est très compliqué. Parce que l'énergie, après, elle est utilisée par les forces du mal.
Donc,
il peut...
Donc, quoi.
Non. Ne plus avoir d'énergie. Non, ça, c'est pas possible.
Donc, tellement de fois qu'il faut...
Non, parce qu'il explique dans Igaret HaTshuva, ça, c'est dans très longtemps, il explique dans Igaret HaTshuva que même avec un tout petit peu de force de Kedusha, on peut faire des choses extraordinaires. On ne se rend pas compte du potentiel qu'on a. Les forces du mal se rendent compte encore plus. Ça veut dire que nous, on a 100 et on n'utilise même pas 1. Les forces du mal, tu leur donnes 1, ils en font 100. Parce qu'ils arrivent à déployer cette énergie.
Alors l'énergie du mal, ça peut être qui alimente le mal en permanence, c'est la colère et la rage que l'homme va véhiculer pour faire la faute.
Toute la vérote. Dès qu'on fait une avéra, on alimente le mal.
D'accord.
Voilà.
Donc son énergie, c'est nous qui lui donnons.
Ça veut dire, je pense que, je, en tout cas, moi, ce que je veux dire,
le machin agressif, etc. C'est, on va vers le mal.
Moi, je vous dis, le sentiment que j'ai eu lorsque j'ai étudié ce Pérec, le sentiment personnel que j'ai eu lorsque j'ai étudié ce Pérec, ce chapitre, c'est que jusqu'à maintenant, on a toujours pensé que lorsque je faisais une avéra, c'est mon affaire personnelle. Bon, ça me regarde. C'est mes affaires. J'ai fauté, Dieu me l'a interdit, j'ai fauté, il va me punir, mais c'est mon problème, ça concerne personne. Alors on connaît l'exemple qu'on donne toujours, l'exemple avec le bateau, celui qu'on était dans un bateau, et il y en a un qui était dans sa chambre, d'accord, dans sa cabine, et qu'il a commencé à percer, et il y en a l'autre qui commençait à rentrer, on lui a dit mais arrêtez de percer, il a dit je suis dans ma cabine. Non, mais c'est un exemple du Magid de Doudmoul, d'accord. Bon, enfin il est écrit dans le Midrash, mais le Magid de Doudmoul le développe. On connaît cet exemple, mais finalement, en théorie, on comprend pas l'exemple. Ça veut dire comment il fonctionne l'exemple. Je fais ce que je veux. C'est moi qui décide si je veux fauter ou pas. En quoi ça concerne tout le monde. Mais maintenant qu'on explique que quand je fais une avéra, c'est pas seulement une notion de punition récompense que j'ai fait une bêtise, on va me punir. C'est beaucoup plus fort que ça. Quand je fais une avéra, j'alimente les forces du mal. Que je le veuille ou que je le veuille pas. Ça veut dire que ce qu'on va perdre en faisant une avéra par rapport à ce qu'on va gagner, j'ai gagné un petit plaisir pour quelques instants, mais ce que les forces du mal vont gagner, c'est énorme. Et ça, c'est une réalité. Chaque fois qu'on fait une avéra, on alimente les forces du mal.
Et on y pense. C'est pas la tristesse. Ça rencontre la tristesse.
C'est pas une avéra, la tristesse. Non. Ça pousse à l'avéra, mais c'est pas une avéra.
Ça pousse à faire des fautes, mais ça peut pousser aussi à
c'est pas une avéra.
C'est un catalyseur. Non, c'est ce que je dis.
C'est pas bien la tristesse, mais c'est pas une avéra.
C'est pas obligatoire.
Oui, assourd, d'accord, mais c'est pas une avéra.
Ouais, souvent.
C'est assourd.
Non, c'est pas une avéra. Non, mais c'est pas bien, etc. On peut pas rajouter des mitzvot. On en a déjà. Si on peut contrôler, bien sûr, on peut contrôler. On aura un chapitre 26. Chapitre 26. Retenez.
On y arrive.
Chapitre 26. On y est bientôt là. Vous allez voir qu'à partir du chapitre 26, on aura vraiment une déviation dans le Tania. Jusqu'au chapitre 26, on est beaucoup dans la théorie. Et à partir du chapitre 26, on va parler vraiment de choses très concrètes, comme la déprime, la joie, enfin des choses très très concrètes. Bon, on va se rattacher, on aura l'occasion de développer tout ça. Évidemment. On peut tout contrôler. Bien sûr, ça se commande. On verra comment, on aura les techniques. Pourquoi il est triste? Il y a les techniques, tu verras, il y a les techniques. Qui vivra, verra. Et les techniques. Ok. Le mal, c'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est les mitzvot, la Torah et les mitzvot.
Avant la Torah et les mitzvot,
c'était à chaque fois c'était les sept lonoharides, c'était Adam Harishon qui est Kamel. C'est là que croire en Dieu. Oui, croire en Dieu. Tout, c'est simple. Ceux qui croient pas en Dieu, ben voilà. Et ça, voilà, ça veut dire qu'en vérité, comment on donne les forces au mal, c'est en lui donnant l'importance. Ça veut dire en faisant une avéra. Chaque fois qu'on fait une avéra, on alimente les forces du mal. Chaque fois que je fais une mitzvah, je récupère l'énergie des forces du mal. Alors ça, on va expliquer. Ça, il s'arrête pas trop ici, mais je voulais m'arrêter sur ça aussi. Dans Egeret HaTshuva, il dit comme ça. Imaginons que, par exemple, une personne, il a fauté souvent avec des femmes. Bon, Dieu préserve. Il a fauté 15 fois avec des femmes, par exemple. Et qu'après, un jour, Akadosh Baruch Hu, il lui met la même tentation, avec le même style de femme, d'accord? Avec la même avec les mêmes facilités, etc., les mêmes tentations, tout, kiff, la même chose.
Il tombe pas.
Et que là, il tombe pas. Comme il tombe pas, grâce au fait qu'il va pas tomber, en un instant de Teshuvah, il va récupérer toute l'énergie qui avait été prise en captivité à cause de la vérote qu'il avait fait. Sauf si un bébé, là, c'est différent. D'accord, un bébé, c'est plus compliqué. Oui. Ben, c'est plus compliqué parce que là il y a un enfant. Ça veut dire, il y a une.
Sauf s'il a eu un enfant.
Ben oui. S'il y a un enfant, dans ce cas-là, c'est plus compliqué. Parce que l'énergie, elle va jusqu'à la fin des temps après. Là, c'est plus compliqué.
Ah, c'est
l'enfant énergie. Ben oui. L'énergie de la Vera crée un enfant.
Mais l'enfant, donc l'enfant, ça va être une force du mal, en fait.
Mais évidemment. L'enfant est issu des forces du mal, oui.
Et si l'enfant, il est issu, mais c'est pas le bon.
Quoi? Il est quoi?
Est-ce que ça prend des forces du mal, l'enfant?
Bien sûr. Il est issu de ça, quoi. Il est dans le camp du mal, c'est sûr, ça. Il y est pour rien, le pauvre, hein. Attention, il y est pour rien.
Ouais, il est pour rien, il a rien demandé.
Il est strictement pour rien, il a rien fait.
Comment on fait pour lui?
Déjà, on va parler des juifs pour l'instant, mais hein?
Comment on fait pour lui?
Ah, bah ça c'est un autre cours, ça c'est autre chose.
Mais bon, chapitre 29,
quoi ?
Avant
chapitre
204.
Et puis je peux pas.
Avant de naître. C'est très compliqué, il y a beaucoup d'histoires de cette équipe sur ça. Je veux pas rentrer dans les détails.
C'est costaud, hein. Ou gamin, ou gamin.
Parce que normalement c'est la mort.
Ça dépend.
Ah, c'est
carrément. Ça dépend des cas.
Bon, je rentre pas dedans. La mort, la teshuva, la conversion. Voilà. Ok. On va continuer.
Pas forcément.
Non, là je parlais d'un cas où c'était pas juste, par exemple. Alors, Besod Galut Ashrina. Donc voilà. Donc là, si vous voulez, ça c'est le chidouche du cours d'aujourd'hui pour l'instant. Le chidouche du cours d'aujourd'hui, c'est d'expliquer que le mal a été créé pour le bien. Le mal a été créé, comme on a expliqué à Rabotai, pour nous donner une récompense chaque fois, donc de bien chaque fois qu'on se retient. Le mal, en vérité, n'est pas si important qu'il en a l'air, mais le vrai, ce qui est vraiment important, c'est le bien. Et chaque fois que je fais une avéra, j'alimente les forces du mal et je leur donne de la force. Donc, quand je fais une avéra, je peux pas l'analyser que sur mon côté égoïste. Quand je fais une avéra, ça a un impact mondial. Ça a un impact jusqu'à la fin des temps. Parce que, qu'est-ce que vont en faire les forces du mal après avec ces puissances que je leur ai données? J'en sais rien ce qu'ils vont en faire. Et combien de temps on va prendre pour récupérer ça? C'est très compliqué. Mais bon, après, il y a des calculs que je vous donne un exemple. Un exemple qui est ramené dans le Zohar. Si par exemple, un homme a fauté. Bon. Il a fauté, il a fait des bêtises. Il a pas fait teshuva. Donc il a alimenté les forces du mal.
Il a pas fait
teshuva.
Avant de mourir,
il a pas fait. Il est mort comme ça. D'accord? Il est mort comme ça, il a pas fait teshuva. Ce bonhomme avait des enfants. Ses enfants ont continué sa voie.
Ah, Racha aussi?
Ils ont continué. Racha, fils de Racha. D'accord? Numéro 1, première génération, deuxième génération, jusqu'à 4 générations. Dieu, il attend jusqu'à 4 générations. Si, à la 4e génération, il y a un enfant qui va faire teshuva,
il va
comme cet enfant-là, il provient de l'énergie de ce père, parce que s'il est né, il est né de quelqu'un qui a donné sa force, de celui qui a donné sa force, celui qui a donné sa force. En faisant teshuva, non seulement qu'il a fait une grande mitzvah, mais il peut récupérer en arrière les avérotes qui ont été faits jusqu'à 4 générations en arrière. Ça veut dire que, c'est écrit clairement dans le Zohar. Ça veut dire que, hein?
Ils sont déjà morts, les gens.
Oui, mais vous imaginez que d'un autre côté, quand je fais une avéra, ça a un impact aussi sur tous mes descendants, s'ils ne feront pas teshuva. Ça veut dire que, quand on analyse ça, on voit que la mitzvah et la avéra peuvent avoir un impact sur plusieurs générations. La teshuva aussi peut avoir un impact sur plusieurs générations. Donc, c'est beaucoup plus profond que ce que ça en a l'air. Je pense que le but de ce chapitre, c'est d'arrêter de réfléchir de manière égoïste, de dire, ouais, j'ai fauté, ils vont me punir, j'ai fait teshuva, ils vont pas me punir. C'est beaucoup plus large que ça. C'est un détail, c'est la punition. C'est rien du tout, la punition. C'est pas de ça qu'on parle. L'enjeu est beaucoup, beaucoup plus important. Il est beaucoup plus important. La question c'est, est-ce que j'ai alimenté les forces du mal, ou bien est-ce que j'ai pu récupérer l'énergie des forces du mal?
Parce que l'enjeu, il est à la portée de tout le monde.
Bien sûr. Parce que, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, en faisant des avérotes, on alimente les forces du mal. En faisant teshuva, bien sûr. En faisant teshuva, on récupère cette énergie. Qu'on le veuille pas. Pourquoi tu crois qu'on dit, par exemple, que lorsqu'on fait teshuva pour Yom Kippour, on répare le monde? C'est écrit clairement dans le Marzor. On dit on répare le monde. Qu'est-ce que t'as réparé le monde? T'as fait teshuva sur tes bêtises, tu répares le monde? Comment ça marche? Parce que j'ai fait des choses sur la verrotte que j'avais, j'ai réparé le monde. Je me suis réparé à moi. Non, j'ai réparé le monde. Parce que j'ai enlevé l'énergie des forces du mal. Donc, je suis en train de réparer le monde. On a un impact mondial, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est comme ça. Un impact qui va jusqu'à la fin des temps.
Et est-ce que quand tu as fauté et que tu arrives à surmonter tes tristesses en te forçant à être joyeux, est-ce que tu enlèves,
c'est trop chaud.
Enlèves les décrets qui sont sur toi?
Je rentre pas dedans. Tu vois, regarde, excuse-moi. Ouais. Je rentre pas dans l'histoire, ni la joie, ni la tristesse, ni les décrets. Parce que ça, c'est des punitions, c'est des dérivés, ça. Alors, on essaye de prendre beaucoup plus de recul, de comprendre l'enjeu et l'impact sur toute l'humanité et sur jusqu'à la fin des temps que ça peut causer une avéra. C'est très compliqué.
Ça, bon, on l'a vu avec
c'est
l'humanité que se
repasse. Il n'y a pas besoin de ça. Quand, par exemple, vous faites teshuva, vous récupérez l'énergie de jusqu'à 4 générations d'arrière.
C'est énorme. 80 ans.
100 ans.
20-25 ans, une génération.
Ils ne sont pas réalimentés pendant X temps.
Le mal, il a une capacité de rentabilité énorme. Il n'y a pas un hein bah, oui, mais il pousse à faire d'Averroth, t'inquiète pas, il a des fournisseurs.
Hein ses enfants ne continuent pas dans sa voie. Il ne faut pas que tu vois non plus sur ce que lui a fait, mais il ne continue pas dans sa voie. Combien de temps ça dure?
Oui, mais le mal qu'il a créé, il a pu encourager d'autres personnes qui ont fait d'Averroth, etc. C'est-à-dire, après, même si on ne le punira pas pour ça, la question n'est pas punir, pas punir. L'impact que ça aura, l'impact ne peut pas s'arrêter. Il s'arrête pas à l'impact. Parce qu'il a fait du mal avec une autre personne qui a poussé une autre. Regardez, c'est comme par exemple, regardez, je donne un exemple pour expliquer la notion de l'impact. Pourquoi à chaque fois on parle de la faute d'Adam Harishon? La faute d'Adam Harishon est la faute du veau d'or. Parce que c'était la première. Attendez, prends moi je suis une avéra, je la veux pas, mais non, je la veux. Parce que la faute d'Adam Harishon, c'était la première. La faute du veau d'or, c'était aussi la première. Parce qu'après que Dieu nous a donné la Torah, on était pur comme avant la faute. On a fait la première faute, et après c'est fini, on est reparti. Le plus dur, c'est la première. Parce qu'une fois que tu as fait la première faute, tu as commencé à alimenter les forces du mal, qui n'avaient rien avant. Une fois que tu as commencé à l'alimenter, ils vont s'arranger pour te pousser à les alimenter encore, et après c'est fini, ça sert à mission, on ne s'en sort pas. Donc le plus dur, c'est le premier. Et la vera la plus dure sera la dernière aussi. Ben oui, parce que à chaque fois, chacun fait de la résistance. C'est pour ça que c'est expliqué en Chassidut, on expliquera plus tard. C'est la raison pour laquelle plus on va s'approcher de Mashiach, et plus le mal va faire de la résistance. Et ça, il nous le prouve. D'accord? Parce que, comme le mal, il est conscient que qui c'est qui le pourvoit, c'est le bien. Quand il sent qu'on le pourvoit de moins en moins, alors il met tout ce qu'il peut pour nous pousser à faire les petites dernières avérotes. Parce qu'il sait qu'après, c'est terminé. Et ça, c'est écrit clairement. C'est écrit que le moment le plus obscur de la nuit, c'est quoi? C'est juste avant que le soleil se lève. Parce que quand la lumière, elle sent qu'elle va être repoussée par l'obscurité, alors elle met tout le paquet pour dire attendez enfin quand, le contraire et ben à ce moment-là l'obscurité elle dit je veux me battre avec la lumière je vais donner les dernières forces voilà donc on va avancer juste quelques lignes il y avait des questions encore d'accord Velachen c'est bon Velachen c'est pour ça Nikra Beshem Elokim Acherim maintenant on va comprendre comment on dit dans le Kriyat Shema on dit une personne, il va faire Avodah Zara, il va aller servir Elohim Acherim. D'autres dieux, on le dit dans le schéma, Vayem Shamotchim, etc. Vesartem Vavadetem, vous allez vous détourner et vous allez servir Elohim Acherim. D'autres dieux. Pourquoi il y a d'autres dieux? Il y a un seul dieu. Comment dans la Torah on peut écrire qu'il y a un autre dieu? On lit dans le schéma, oui, mais comment Avodah Zara tu peux appeler ça un autre dieu?
Autre chose que Dieu.
Est-ce qu'il y a autre chose que Dieu?
Non, c'est un autre centre d'intérêt.
Comment ça marche? Alors, comment, c'est quoi Elohim Acherim? C'est quoi un autre Dieu? C'est pas qu'il y a un autre Dieu. C'est une force qui veut se détourner d'Akadosh Baruch Hu. Elohim Acherim. Celui qui veut être autre de Akadosh Baruch Hu. Pareil, c'est quoi Elohim Acherim? C'est une force divine qui a été Acherim, qui a été détournée. C'est pour ça qu'on l'appelle Elohim. Pourquoi la Torah l'appelle Elohim? Parce que c'est une force de Dieu. Les forces du mal, qui c'est qui les alimente? C'est le bien. C'est Dieu Elohim. Ça vient de Dieu. Les forces du mal, c'est le juif qui les a alimentés. Le juif, qui c'est qui l'a créé? C'est Elohim, c'est Dieu. Donc il a une force divine. Donc finalement, qui c'est qui le génère? Tout ça, c'est Elohim. Mais c'est Elohim Acherim. C'est Dieu Elohim qui a été détourné. Maintenant, on comprend pourquoi c'est écrit Elohim Acherim. Vous voyez comme quoi chaque mot est précis. Pas par hasard. Si la Torah emploie le terme Elohim pour parler des idoles, parce que même les idoles, c'est Dieu.
Et pourquoi parler du mal, c'est le juif?
Oui. Le pourvoyeur principal du mal, c'est le juif. C'est vrai? Mais attendez, on est la source de tous les maux de la terre, faut le savoir. On nous le rappelle, ouais. C'est écrit, le Zohar il dit comme ça. Le Zohar il dit que si tous les juifs du monde entier s'arrêtaient instantanément de fauter, et faisaient teshuva bien sûr, d'accord? Le mal serait d'exister. Parce que si on fait teshuva, on a récupéré toutes les forces du mal, d'accord? Toutes les forces du bien qui étaient en captivité chez le mal, on les a récupérées. Et automatiquement, si on ne les réapprovisionne pas, il arrête d'exister. C'est nous, c'est à cause de nous tout ça. Et chaque fois que nous, on fait une avéra, hop, vas-y, on lui remet de l'essence.
Il y a quand même les autres de l'énoir, qui ne font pas les autres.
Rien à voir, c'est des rigolos ça.
Mais un goy doux, il tient son énergie.
C'est des rigolos. Non, par rapport à nous, c'est des rigolos.
Oui, par rapport à nous, mais déjà pour eux... ne serait-ce que la
nous c'est du kérosène, on leur met du kérosène.
Le meurtre.
Oui, mais ça n'a rien à voir.
Au quotidien, l'adultère ou le vol, c'est
très grave, c'est bien sûr.
Pour eux, c'est une grande
épreuve. Ça n'a rien à voir avec nous. Il dit clairement, dans le Zohar, il dit comme ça. Le Zohar, il dit que quand un juif fait une avéra, les forces du mal sont très contentes. Et elles font tout pour le pousser à continuer à faire du mal. C'est les missionnaires, comme les missionnaires. Ça veut dire, dès qu'ils ont attrapé un juif, pour eux, c'est plus, vous savez, j'ai entendu une fois, ben, il marchait même, missionnaire comme ça. Il m'a dit, nous, on préfère investir pour attraper un juif que 1000 personnes qui sont pas juifs. Pour eux, ils ont attrapé un juif, c'est, ça vaut l'or du monde. Ils le savent, ça prouve, pourquoi vous croyez qu'ils cherchent à attraper le juif?
Hein?
Bien sûr qu'il y a mais ils disent clairement, ils le disent en face. Ils vont aller attraper un juif, c'est mieux que 1000 personnes. Il est prêt à mettre l'énergie et l'argent qu'il aurait eu pour 1000 personnes pour récupérer une personne.
De se marier ils disent clairement. Avec un juif, c'est un trophée, on va dire, tout paradis.
Lui, il n'a pas eu de douja.
Alors, le goy aussi, il a une énergie divine. Il est à Kadosh Baruch Hu. Mais cette énergie n'est pas aussi forte que l'énergie d'un juif. L'énergie qu'il y a dans l'Eneshama d'un juif est une énergie qui a un impact ad vitam aeternam. Jusqu'à la fin du temps, jusqu'à la fin des temps. Ça, les forces du mal le savent.
Le goy, alors comment ça se passe si les juifs, ils arrêtent, mais le goy, il va continuer.
Oui, mais c'est infime par rapport aux juifs. Si le juif, il donne énormément de force. Et si les juifs arrêtent de fauter, d'accord. Alors, on va continuer.
Comment on comprend le fait que ma chère qui peut venir, qui Robin Pochim, deux façons qu'il y a.
C'est un autre critère. C'est parce qu'à un moment, à Kadosh Baruch Hu, il peut estimer... Que puisque le plan ne se passe pas comme prévu, alors on récupère la situation et on redémarre à zéro.
Il change
la règle.
Il a pris deux églises.
Ok. Alors dans les mots, on continue. Qui met achar chez or vechayud de kedusha ou biprinat galut betocha eina bete la klal gabek kedusha de kedusha. Maintenant, là, si vous voulez, dans la suite du cours, il va expliquer quelle est la différence entre le bien et le mal. Très intéressant cette manière d'expliquer. La source du bien, c'est l'humilité.
L'humilité.
Écoutez bien. La source du mal, l'origine, si on pouvait définir en un mot le mal, c'est l'orgueil. Et on va donner plusieurs exemples. C'est quoi le mal? Le mal, c'est quand on prend une énergie divine et qu'on la met en captivité. Comme elle est en captivité dans les forces du mal, alors automatiquement, ils font ce qu'ils veulent, ils n'écoutent pas à Kadosh Baruch Hu. Alors regardez bien. Non seulement que les forces du mal ne sont pas battelles, ils ne sont pas soumises à Kadosh Baruch Hu. On va reprendre les mots. Alors, Adraba, au contraire, je suis à la page 278. En bas de la page, deux paragraphes à la fin de la page. Ve'adraba, et au contraire, non seulement que les forces du mal ne sont pas soumises à Kadosh Baruch Hu, mais au contraire, magbia atzma kanesher. Les forces du mal, c'est la notion qu'ils vont être chutzpa, ils vont être effrontés. L'effronterie devant Kadosh Baruch Hu. Magbia atzma kanesher. Dans les forces du mal, on va pousser une personne à s'élever comme un aigle. C'est quoi l'aigle? L'ex, celui qui est le plus haut. L'omar pour dire, Ani ve'afsi od. Je suis le seul à exister. Je suis celui qui maîtrise tout. Ukma Amar, comme c'est écrit. Qu'est-ce qu'il disait Pharo? Pharo qui était l'origine du mal. D'accord? Pharo disait, Ye Orli. Le Nil est à moi. Va Ani asitini et c'est moi qui me suis créé. Pourquoi il dit pas, il y a un dieu? Qu'est-ce que ça le dérange d'admettre qu'il y a un dieu?
Il a dit ça.
Il l'a dit clairement?
Ah ouais,
oui. Ye Orli, il dit, je me suis fait tout seul. Il dit, le Nil est à moi et moi je me suis fait tout seul. D'accord? Mais il disait, il pensait. Parce que, c'est quoi le Nil? Le Nil, c'est ce qui procurait la parnassa aux Égyptiens. Donc il leur disait, votre parnassa vient de moi. D'accord?
Il parle et de la rivière. Donc.
Oui, il parle du Nil.
Le Nil c'est moi qui fais la rivière.
Et c'est moi, non. Et c'est moi qui me suis fait. Et donc, ça veut dire, je n'ai pas besoin de créateur. D'accord? Alors, ce qu'il veut dire ici, c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut dire ici, là, de Morazaken? Morazaken, il veut dire comme ça. Il veut dire, c'est quoi Paro? Paro, c'est l'originum du mal. C'est celui qui n'accepte pas qu'il y ait une autre existence. Ça, c'est le mal. La définition du mal, c'est l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? C'est ne pas accepter l'autre. La kedusha, c'est au contraire. C'est l'humilité. On est là à l'écoute de l'autre. On est là à l'écoute. On est là, on se rabaisse devant la personne. C'est quoi le mal? Non seulement qu'on se rabaisse pas devant Kadosh Baruch Hu, mais au contraire, le mal, c'est celui qui va dire, je suis le seul à exister, c'est moi le patron. Et ça, vous pouvez le voir aujourd'hui. Quand vous voyez la différence entre les gens bien et les gens pas bien, les pays qui sont bien, les pays qui sont pas bien, vous voyez que les gens qui sont bien, ils sont toujours à l'écoute des autres. Et des fois, d'ailleurs, c'est contre nous, parce que tellement on est à l'écoute qu'on se remet en question, etc. C'est une qualité, mais ça peut être un défaut. D'un autre côté, les forces du mal, ils sont sûrs d'avoir raison. Le bonhomme, il est là, il va te couper des têtes, il est sûr d'avoir raison, et tu peux pas le convaincre, c'est impossible. D'où ça vient, ça? Parce que le mal est égal à l'orgueil. L'orgueil est égal à ne pas écouter qui que ce soit. C'est non seulement qu'on n'est pas soumis à Kadosh Baruch Hu, mais au contraire, on s'élève comme un aigle et on dit, c'est moi le patron, c'est moi qui décide tout. Velachen, c'est pour ça. Maintenant, écoutez bien maintenant la chute de ce chapitre. Donc là, si vous voulez, jusqu'à maintenant, je fais un petit résumé. On a expliqué un petit peu finalement qu'est-ce que c'est le mal. Le mal, il est alimenté par le juif. Le mal, ça me pousse à me dépasser, mais concrètement, si je me dépasse pas, j'alimente des forces du mal qui peuvent avoir un impact à vitam aeternam. Et le mal, c'est quoi? Le mal, c'est l'orgueil, le fait de ne pas être soumis à Kadosh Baruch Hu. D'accord. Maintenant, écoutez cette chute. Velachen, c'est pour ça. Maintenant qu'on a compris que quelle est la définition principale du mal, c'est quoi le mal? Le mal, on a dit, c'est l'orgueil. Le mal, ça veut dire, je n'écoute personne, je connais plus Dieu, je fais ce que je veux, j'ai pris en moi j'ai pris en captivité une force de Dieu, et je fais ce que je veux avec maintenant, je rends des comptes à personne. Maintenant, on va comprendre que puisqu'on a expliqué que la définition du mal, c'est quoi? Le mal, c'est l'orgueil. On va comprendre pourquoi, velachen, amrou, rabotenu, zichonam, livracha, shegasu, taroua, shkula, kavodazara. Maintenant, on va comprendre pourquoi les rachamim ont dit que l'orgueil est considéré comme la vodazara. Maintenant, on comprend. Mamash! C'est écrit que l'orgueil est considéré comme la vodazara. Le fait que la colère soit considérée comme la vodazara, c'est logique. On a expliqué ça fait quelques cours. Pourquoi la colère est considérée comme la vodazara? Parce que si je m'énerve, ça veut dire que je n'accepte pas la situation qui s'est passée. Donc, je suis pas d'accord avec la manière de Dieu de faire les choses. Ça, d'accord. Mais pourquoi une personne qui est orgueilleuse, c'est comme un idolâtre? Quel rapport entre l'orgueil et l'idolâtre? Maintenant, on comprend. C'est quoi l'idolâtre? L'idolâtre, c'est celui qui décide de ne plus rendre de compte à personne, qui dit « je fais ce que je veux, c'est moi le patron ici ». L'orgueilleux, c'est la même chose. Et la Gemara dit que « gasout arouar » l'orgueil, c'est-à-dire les gens qui ont les, qui ont le comment on appelle ça? Comment ils ont traduit « gasout arouar » ici? La grossièreté d'esprit, l'arrogance. Littéralement. L'arrogance. « Shkula kavodazara », ça équivaut comme la vodazara. Vous savez qu'il y a même des halakhot dans Shulchan Aruch, par exemple. Shulchan Aruch, il te dit que tu n'as pas le droit de marcher comme ça.
C'est assourd.
C'est assourd, vous savez ça?
Même en regardant le ciel comme ça,
c'est assourd de marcher comme ça. Il faut pouvoir voir ses pieds. Là, ouais, là, je suis pas bon, là. Par contre, là, je suis bon. Marcher comme ça. Bon. Voilà, s'il y en a qui sont gros, c'est un autre problème.
Mais tu mets un réduviseur.
Je parle pas en mode Shabbat après-midi. Je parle en général pour une personne qui a un ventre plat. Mais d'accord?
Oui. On a le droit d'être fier dans la vie.
Ah, c'est pas la même chose. La fierté, c'est de l'humilité.
Pardon?
La fierté, ça peut être l'humilité. Je suis content que j'ai fait quelque chose.
L'arrogance, c'est deux choses.
C'est deux choses complètement différentes.
Être orgueilleux, ça veut dire ne pas accepter qu'on ait des.
Être orgueilleux, ça veut dire ne pas accepter l'autorité. Ne pas accepter quelqu'un qui est au-dessus de moi.
On peut être fier de ses convictions, par exemple.
Bon, la fierté, c'est pas du tout ça. On peut être fier et en même temps humble. Au contraire, je suis fier de ce que j'ai fait. C'est une humilité. Je me suis travaillé. Je suis content de ce que j'ai fait. Très bien, ça. C'est important. Mais ça, c'est pas l'orgueil. Donc quel rapport entre la avodazara, oui, et gasout arouach et l'orgueil, qui ikar veshoresh avodazara, parce que l'essentiel de la avodazara c'est quoi? Mash enershav le davar bifnei atzmo. Ça veut dire, si on pouvait définir en un mot, c'est quoi l'idolâtrie? Vous rappelez, pour ceux qui étaient là, ça fait deux semaines, j'avais posé une question. Vous rappelez la question que j'ai posée? J'avais dit, on avait fait un tour de table, je sais pas si vous vous rappelez, on avait dit c'est quoi l'idolâtrie d'après vous? On a posé une question. Ouais. Chacun avait répondu plusieurs réponses. Il y avait plusieurs réponses, d'accord? Il y en avait qui ont dit l'idolâtrie, c'est chercher autre chose, c'est adorer autre chose. Là, il te répond, il te dit une réponse très simple. Il te dit, ça, c'est des choses parallèles, ça. Adorer d'autres dieux, servir d'autres dieux, c'est parallèle. C'est pas ça la définition de l'idolâtrie. La définition de l'idolâtrie, c'est de décider qu'il y a quelque chose qui est indépendant de Dieu. Ça, c'est l'idolâtrie. Donc, c'est l'orgueil. Ça, c'est, en un mot, l'idolâtrie, c'est quoi? C'est décider d'être indépendant d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on est tous touchés par ça.
Ça rejoint l'histoire de l'unicité que tu
avais. Exactement. Oui. Tout tourne autour de ça. Oui. Toute la Torah tourne autour de ça. Donc, là, vous voyez comment on commence à recomposer le puzzle. C'est-à-dire, Shema Israël, c'est l'unicité. Le deuxième commandement, tu n'auras pas notre Dieu, ça veut dire ne pas accepter l'unicité. Pas accepter l'unicité est égal à l'orgueil. L'orgueil est égal à la Vodazara. D'accord? Donc, on comprend comment tout se rejoint. Donc, Mash Enershav, Nifrad, vous voyez, je vois la différence entre ceux qui en sont au premier passage du Tanya et ceux qui sont au deuxième passage. Mention pour Dan. Alors.
Ah,
ceux qui sont au deuxième passage, ils ont
level 2.
Ok. Alors, Mash Enershav, les Davar Bifne Atzmo, Nifrad Mikdushoto Shel Akadosh Baruch Hu, Velok Fira Bashem Legamri. Maintenant, écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, pour être idolâtre, être idolâtre, ça ne veut pas dire nier l'existence de Dieu. Parce qu'il faut être maboule pour nier l'existence de Dieu. C'est pas ça, un idolâtre. Je vais expliquer. Kedeita bigmara, comme c'est écrit dans la Gemara, des karelé, que les forces du mal appellent Dieu, elaka de elakaya, le Dieu des dieux. Ça veut dire, être idolâtre, ça ne veut pas dire ne pas croire en Dieu. Être idolâtre, ça veut dire il y a un grand Dieu et moi je suis le petit Dieu. Donc, on est indépendant. Ça, c'est être idolâtre.
Ah, il y a une hiérarchie.
Il n'y a pas besoin de pas croire du tout en Dieu. C'est pas ça l'idolâtrie. Parce que si une personne ne croit pas du tout en Dieu, il n'est pas idolâtre, il est non-croyant. C'est un incroyant, c'est pas un idolâtre. C'est pas ça un idolâtre. C'est quoi un idolâtre? Un idolâtre, c'est une personne qui va croire en Dieu, mais qui va dire, il y a Dieu.
Et il y a moi.
Et il y a moi.
Bah ouais.
D'accord? Et moi, je suis aussi un Dieu. Lui, il est grand, moi, je suis petit.
C'est normal.
Et c'est ce que dit la Gemara. Ça veut dire, c'est quoi l'idolâtrie? C'est de dire que moi aussi, je suis quelqu'un. Moi aussi, je suis indépendant. Moi aussi, je fais ce que je veux. Ou basé, M. Mafridim Atzma Mikdushato Shel Makom Baruch Hu. Et celui qui fait ça se sépare de la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est quoi la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu? La Kedusha d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour être attaché à la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu, il faut avoir l'humilité. Dès qu'on décide de ne plus être humble, automatiquement, on a quitté la Kedusha et on est passé dans la force du mal. Velachen Nikraim Touré de Frouda. Donc là, vous voyez, il referme le puzzle. Vous savez comment sont appelés dans le Zohar les forces du mal? Dans le Zohar, les forces du mal sont appelées Haré des Prouda, les montagnes de la séparation, les montagnes de l'orgueil. Pourquoi les montagnes? Pourquoi l'orgueil? Pourquoi les montagnes d'abord? Parce qu'on a expliqué que c'est l'orgueil. Donc l'orgueil, c'est comme une montagne. D'accord? Le tzaddik est comparé à une vallée. Les forces du mal sont comparées à une montagne, celui qui veut s'élever. Et pourquoi les montagnes de la séparation? Parce que les forces du mal est égal à l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? Si on se sépare d'Akadosh Baruch Hu, on décide de devenir indépendant. Va rezo, pour revenir à ce qu'a dit Dan, tu es avec nous Dan. Va rezo, kfira, père de toi, mitit. Donc, être idolâtre dans ce sens, c'est nier l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez que quand on lit ce chapitre, on pourrait se poser des questions, est-ce qu'on n'est pas idolâtre nous-mêmes? C'est-à-dire quand ça nous arrive des fois des situations dans la vie dans lesquelles voilà on est un peu orgueilleux, dans lesquelles on n'accepte pas les choses, dans lesquelles on n'est pas soumis à Kadosh Baruch Hu, d'une certaine manière c'est de l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie.
Il y a un orgueil qui est moutard.
Quoi? Oui, mais encore une fois, c'est un orgueil qui est pour un but de m'aider à avancer dans la Torah, etc. C'est pas de ça qu'on parle. C'est une personne qui veut pas s'annuler devant Kadosh Baruch Hu.
Je peux être orgueilleux d'être.
Oui, mais c'est la fierté ça.
C'est
non, c'est pas de l'orgueil. L'orgueil c'est négatif.
C'est difficile. Hein. Quand on dit qu'il y a ou là, c'est très difficile.
Non, c'est... Oui, mais attention, il y a un orgueil positif et un orgueil négatif.
L'orgueil positif,
oui, l'orgueil positif, c'est de dire par exemple que comment moi je peux faire une avéra, je suis tellement important. Oh, pourquoi pas. Donc, des koula kamekel achashib ou batel lo behemet, behemet lo itbarer, velirtsuno amechaye et koulam ou meave otam meaim leyesh tami. Donc, pour conclure ce qu'on expliquait ici. C'est quoi l'unicité d'Akadosh Baruch Hu? C'est accepter qu'il n'y a rien du tout à part Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est quoi l'Avodah Zara? C'est la notion de l'orgueil. Donc voilà, vous voyez, on reprend maintenant le chapitre enlevé à l'envers. Donc orgueil est égal à Avodah Zara. Quand je fais une Avera, je décide de faire ce que je veux, donc je suis orgueilleux, donc je donne la force aux forces du mal. Ces forces du mal, cette force-là, elles la récupèrent et elles en font ce qu'elles veulent avec. Quand je fais Teshuvah, je récupère ces forces du mal. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé les forces du mal? Parce que chaque fois que je me retiens de ne pas faire une Avera, je suis en train de faire une mitzvah. D'autant plus que chaque fois que je me retiens de faire une avera, je vais déployer en moi des forces que je ne me doutais même pas que j'avais. Alors je voudrais juste terminer par ça, oui.
Pardon. Mais il y a un paradoxe quelque part, parce que tu dis il faut pas donner de l'importance au mal et on voit l'importance du mal là.
Oui. Mais le mal a de l'importance quand on lui donne de l'importance.
Pour le focaliser.
Tu comprends? Quand on donne de l'importance au mal, c'est là que le mal prend. Regarde, nos plus grands ennemis en Israël, c'est qui?
C'est nous.
C'est nous. C'est toutes les ONG de gauche. C'est nous. C'est nous. Il n'y a pas pire ennemi que nous-mêmes. C'est une réalité ce que je te dis.
Tu as raison. Ça veut dire quoi? Elles font ce qu'elles veulent.
Ce que j'ai dit tout à l'heure.
Ça veut dire quoi elles font ce qu'elles veulent?
Elles font ce
qu'elles veulent. Au directeur des
cours. Ostrahara,
c'est l'origine de tout le mal que tu as parlé. Après, il va pousser des goïms à faire des avérodes, il va pousser des goïms à tuer des juifs, il va pousser des tas de choses qui viennent à cause de nous. Donc nous sommes l'origine d'un problème. Tu comprends? C'est très grave ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que tous les réchaïm, tous les tyrans qu'il y a dans le monde, c'est à cause de nous qui sont là. C'est nous, en tout cas, qui les alimentons. Pareil, il y a eu forcément quelque part quelqu'un qui a fait une faute. Mais quel rapport? Même les douches vatim, à part ça, dans le monde a été créé. Si, il y a eu des fautes. Il y a eu des gens qui ont fait des fautes. Bien sûr, qu'il y a eu la génération de Enoch, il y a eu beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont fauté. Le mal ne peut pas être créé s'il n'y a pas un juif qui a fait du mal. C'est impossible. Ça, c'est le chidouche qu'on va expliquer aujourd'hui. D'accord? Donc, vous comprenez que, on va juste terminer par ça.
Alors,
qu'il faut savoir que.
Des
nous sommes quoi?
Des idolâtres.
Alors, c'est une bonne question.
Quand on fait une avéra, on est un idolâtre.
Non,
on a fait passer notre intérêt.
J'ai compris ta question. Béhémet, alors, idolâtre dans le sens halakhique du terme, non?
Non, mais dans le sens que tu développes là, oui.
Évidemment, bien sûr.
Parce qu'on dit qu'en réalité, si on fait la avéra, ça veut dire qu'on ne veut pas respecter Kadosh Baruch Hu. Si on a fait cette avéra, c'est qu'on a considéré que notre intérêt à nous.
Exactement.
Est plus important. Et ben,
tu as tout compris. C'est la raison pour laquelle on avait expliqué dans un cours qu'on avait fait au début du chapitre 20. Vous voyez comment on referme le puzzle? D'accord? On avait expliqué dans le chapitre 20 que le premier commandement, je suis l'éternel ton Dieu, c'est l'origine de toutes les misères positives. Le deuxième commandement, tu n'auras point d'autre Dieu, donc l'idolâtrie, c'est la base de toutes les misères négatives.
Bah,
voilà, c'est ça.
On l'a là.
Tout est clair. Avodah Zarah, la notion de Avodah Zarah, c'est la notion de l'orgueil, donc de faire ce que je veux, de pas accepter l'autorité, c'est la base de toute la Averot. Après, toute la Averot, c'est des variantes.
À quoi ça sert d'avoir 8 autres commandements dans ce cas-là? Si t'es avec Dieu, t'as...
Non, parce qu'après, c'est des variantes. Après, c'est des déviations, c'est des variantes.
Mais d'accord, mais c'est comme la Gemara.
Mais si tu peux résumer toute la Torah en un mot, tu la résumes au premier commandement. Et au deuxième, si tu veux aussi. Et c'est pour ça, rappelez-vous ce qu'on avait expliqué en chapitre 20. Ça, c'est le sens de Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. En quoi Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est tellement important? Bon, bien sûr qu'il y a un seul Dieu. Non. Parce que finalement, si réellement on était convaincu qu'il y a un seul Dieu et que c'est l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a rien qui indépend d'Akadosh Baruch Hu, on n'aurait fait aucune avéra. Donc si on ne le fait pas, c'est qu'il faut se répéter le schéma tous les jours.
Mais en même temps, comme on est dans le monde d'Hachem, donc, et qu'on a été créé par lui, c'est que finalement ça a un sens de faire de la avéra.
C'est quoi ça a un sens?
Ça veut dire que ça a un sens.
Bah, on l'a dit, pour t'élever, pour te dépasser.
Pour t'élever.
Je sais pas.
Ah oui,
je sais pas moi ce qu'il a inventé. Je peux pas être dans ses comptes. S'il a créé cette possibilité, c'est que ça a un sens.
Bien sûr. C'est sûr.
À part le libre arbitre.
Non, le libre arbitre, le chemin parallèle pour te pousser. Ok. Je vous donne juste maintenant, on va s'arrêter ici. Je vous donne un preview de ce qu'on va faire avec Bezrat Hashem la semaine prochaine. Chapitre passionnant aussi. Chapitre Perek Rav Gimel. Donc, ce qu'on va faire dans le Perek la semaine prochaine, il va expliquer, là maintenant, on va entrer encore beaucoup plus dans le Zohar, mais vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. Parce que le Zohar, quand on a fait des belles introductions comme ça, après le Zohar, c'est fluide. On va expliquer comment la Torah et les mitzvot nous aident à nous retrouver dans ce grand monde, et donc nous aident à défendre les forces du bien et à combattre les forces du mal. Il va expliquer concrètement. Parce que maintenant, on a compris, que chaque fois que je fais une mitzvah, j'alimente les forces du bien, chaque fois que je fais une avéra, j'alimente les forces du mal, c'est clair.
Donc là, c'est les techniques.
Donc là, si vous voulez, maintenant, il va expliquer comment ça marche avec les mitzvot. C'est des techniques. Techniquement, comment ça se passe? Quand je me mets tefillin, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Donc là, on va rentrer dans les coulisses du monde. On va t'expliquer quand tu mets les tefillin, qu'est-ce qui se passe? En parallèle des tefillin que je suis en train de mettre. Et vous allez voir qu'encore une fois, je pense la particularité du chapitre la semaine prochaine, chapitre 23, c'est que, il va nous expliquer l'enjeu de nos mitzvot qui est beaucoup plus fort que ce qu'on pensait. Mais beaucoup plus loin. Il va t'expliquer comment, quand t'as mis une simple paire de tefillin, t'as changé le monde. Oh non, avec qui j'ai changé le monde? J'ai mis une paire de tefillin, qu'est-ce que j'ai changé le monde? Et vous allez voir qu'il va expliquer avec des arguments logiques, des arguments concrets, pour expliquer comment, quand j'étudie la Torah, quand je fais une mitzvah, quand je mets les tefillin, avec des exemples, on va expliquer comment on est en train de changer le monde. Et ça, Bezrat Hashem, on le laisse pour la semaine prochaine. Voilà. On s'arrête là pour aujourd'hui. Non, j'ai tout ça.